ça l'appelle.
Ce serait?
Oui.
D'accord.
On appelle ça. Le pluriel ouvre sur la multiplicité des dimensions du livre, qui traite à la fois de Marx en tant qu'il est un spectre pour, disons, la conscience politique mondiale aujourd'hui, qui voit dans le communisme, qu'il confond avec les sociétés socialistes qui sont effondrées maintenant, déjà quelque chose qui est à la fois mort et qu'il faut éviter, dont il faut éviter le retour, qui voit en Marx aussi un mort dont il faut éviter le retour et donc il faut s'assurer qu'il reste bien enterré là où il s'enterre. Hein. Donc il y a un rapport au spectre de Marx et du communisme qui, étrangement, répète une scène dont Marx parlait lui-même au début du manifeste, quand il disait un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme. Donc ce sont, d'un côté, les spectres de Marx et du communisme pour notre
la contemporanéité.
Conscience politique aujourd'hui. Mais il y a les spectres de Marx lui-même, c'est-à-dire que, les spectres qui ont hanté Marx. Et j'étudie dans la deuxième partie du livre la manière dont Marx, hanté lui-même par une armée de spectres, traite le problème, notamment dans la polémique avec Stirner, comment il traite du problème de la fantomalité en liaison avec le fétichisme, l'idéologie, etc. Donc le pluriel indique que, selon la manière dont on articule le génitif, hein, Marx comme un spectre, et les spectres pour Marx, d'une part. D'autre part, cette notion de spectralité ne concerne pas seulement les fantômes en tant que tels et Marx lui-même, mais tout ce qui, tout ce que j'appelle la logique spectrale, c'est-à-dire tout ce qui, dans notre expérience, n'est ni intelligible, ni sensible, ni visible, ni invisible, et qui concerne aussi bien le langage, les télécommunications, toute la techno-télémédiatique, en fait, qui transforme notre espace public.
Qu'est-ce qui vous a amené à parler d'une logique spectrale?
Vous savez, le thème du spectre est au travail depuis très longtemps dans des livres antérieurs. Ça remonte très loin. Si la chose vous intéresse, vous pouvez voir qu'il est question de spectre partout. Parce que le spectre, c'est une structure qui résiste aux oppositions métaphysiques. Ce n'est ni sensible, ni intelligible, ni visible, ni invisible, ni vivant, ni non-vivant. Et par conséquent, ça a une affinité avec tous les quasi-concepts qui m'ont intéressé dans mon travail, la trace, le supplément, le pharmacone, c'est-à-dire tout ce qui résistait aux oppositions conceptuelles de la philosophie classique. D'une certaine manière, la spectralité a été le levier stratégique de la déconstruction, voir où, quelles sont les catégories de ce qui résiste aux catégories philosophiques. D'autre part, depuis longtemps, je me suis intéressé au travail du deuil dans la psychanalyse et au-delà de la psychanalyse. Et naturellement, dès qu'on s'intéresse au travail du deuil, ce que j'ai fait dans Glas, par exemple, dans une introduction à certains ouvrages de psychanalyse sur le deuil, justement. Dès qu'on s'intéresse au deuil, on a affaire au retour du fantôme. Hein. J'essaie de montrer, à la fois à partir de Freud et contre Freud, que le travail du deuil n'est pas un travail comme un autre. Hein. Il est interminable et que, d'une certaine manière, tout travail est travail du deuil. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est à partir d'une réflexion sur le deuil que j'ai été amené à privilégier ce thème de la spectralité et on retrouve beaucoup de fils anciens dans le spectre de Marx. Deuxième question. Shakespeare est une référence de Marx. C'est vrai.
Ça peut paraître évident, mais...
Marx cite souvent Shakespeare, c'est un grand amoureux, admirateur de Shakespeare. les œuvres qu'il cite ne sont pas celles que je privilégie dans le spectre de Marx. Il cite surtout Timon d'Athènes, Le Marchand de Venise, dans des discours sur l'argent ou contre l'argent, de grandes imprécations prophétiques contre la corruption par l'argent, contre la prostitution, etc. Mais il ne cite pas Hamlet à ma connaissance. Moi, j'ai jugé nécessaire de prendre en compte l'intérêt de Marx pour Shakespeare, mais aussi à cause de cette logique de la spectralité, d'aller voir du côté de Shakespeare ce qui concerne le spectre. Et il y a beaucoup de spectres chez Shakespeare, dans Hamlet, il y en a aussi dans Macbeth, il y en a aussi dans Jules César. Mais évidemment, c'est surtout...
Qu'est-ce que ça vous a apporté, exactement?
Oui, c'est difficile, hein. Je ne sais pas pourquoi.
Vous êtes embêté.
Pour moi, je suis président de santé, c'est trop difficile, il y a trop de... Je peux pas
passons à la troisième question.
Non, il y a beaucoup à dire sur... Mais sur ce mode-là, je n'arrive pas à parler comme ça. Je me suis intéressé par exemple à ce que j'appelle l'effet de visière dans le fantôme du roi, du père de Hamlet. Ce que j'appelle l'effet de visière, c'est le fait que quand le fantôme a la visière devant les yeux, il voit sans être vu. Hein. Et j'essayais à partir de là, de penser que peut-être une situation où on est regardé sans pouvoir regarder, où la loi, en quelque sorte, est spectrale en ce sens. Hein. Il y avait aussi le fait que le temps dans Hamlet est difficile à calculer, d'abord parce que le fantôme apparaît d'abord pour la seconde fois. Ça commence par la répétition. Et d'autre part, il y a ce motif dans la bouche d'Hamlet qui organise tout le livre Spectre de Marx et qui est ce qu'il dit, « The time is out of joint ». Le temps est hors de ses gonds. Le temps est disjoint. Et le thème de la disjonction, de la non-contemporanéité à soi, de la non-présence à soi, est un thème majeur de ce livre-là, qui se veut intempestif, qui se veut non contemporain. Enfin, c'est écrire un livre pour saluer Marx aujourd'hui, ça n'est pas très, peut paraître anachronique, mais j'essaie d'expliquer et de justifier cette anachronie en me référant notamment à cette logique de la disjonction du out of joint. Combien de temps on a pour parler là? Est-ce que vous me montrerez ce que vous faites ou quoi?
Parce que...
Bien sûr que le spectre, c'est aussi quelqu'un qui à la fois fascine et qu'on essaie de rejeter, de refouler, de réprimer. Et Marx comme spectre, c'est quelqu'un qu'on essaie d'oublier ou de refouler. Néanmoins, je ne sais pas si la catégorie psychanalytique épuise le problème. Si j'essaie de penser quelle peut être la dimension proprement politique d'un tel refoulement. D'autre part, je pose à la fin du livre, si vous l'avez remarqué, des questions sur la manière dont Freud lui-même traite le fantôme et ce qu'il dit de la catégorie des Unheimliche. Hein. Donc il s'agit à la fois de prendre en compte une lecture psychanalytique spectral, hein, et puis de poser des questions au sujet de certaines catégories psychanalytiques qui me paraissent devoir être réélaborées et politisées dans ce champ-là. Mais je ne dirais pas que je ne sais pas ce que vous appelez l'intellectuel philosophe qui devrait être attentif au spectre pour le psychanalyste. Le psychanalyste est attentif au spectre aussi.
Oui, bien sûr.
Bon,
mais c'est vous qui avez quand même introduit d'une manière...
Oui, mais ce que je ne le fais pas simplement... Je ne le fais pas seulement en tant que philosophe. Mais, ce livre qui est un livre, disons, de déconstruction n'est pas simplement philosophique, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il déconstruit un certain nombre d'axiomes philosophiques. La philosophie elle-même est incapable de penser le spectre. spectre. Pour penser le spectre, il faut le penser d'une certaine manière contre la philosophie aussi. Et puis, d'autre part, parce que je voulais protester contre un courant qui actuellement commence à s'installer, à insister, et qui veut que justement, maintenant que Marx, dit-on, est mort, que le marxisme est terminé, etc., on traite enfin Marx comme un grand philosophe. On dit, voilà, maintenant, on va pouvoir étudier Marx dans l'université comme un grand philosophe à part entière, après Descartes, Kant, Hegel, etc. Et c'est une manière aussi de le neutraliser politiquement, d'en faire un personnage dans l'académie philosophique. Donc, c'est pas simplement une lecture de philosophe que je fais. D'une certaine manière, c'est une lecture qui proteste contre la réappropriation, une certaine réappropriation philosophique de Marx. Je crois qu'il faut prendre Marx philosophiquement sérieux, mais il y a une manière de le traiter philosophiquement qui peut risquer de le neutraliser ou de le désamortir, et qui peut par conséquent participer au refoulement général de...
Donc on est déjà dans ma quatrième question.
Alors j'insiste bien sur, non pas le retour à Marx, c'est le retour de Marx. Il ne s'agit pas d'un de ces retours de plus où on va redécouvrir une œuvre, etc. Il s'agit de prendre en compte le fait que Marx revient et qu'on ne peut pas résister à cette hantise et à ce qu'elle nous dicte, à ce qu'elle nous commande, à ce qu'elle nous enjoint. D'autre part, il s'agit, ce retour de, j'insiste bien, il s'agit du retour de l'esprit, c'est-à-dire du spectre, l'esprit veut dire spectre, mais aussi d'une certaine manière de poser les questions. Des questions critiques, sans nécessairement, c'est là que je distinguerai l'esprit de la lettre aussi, sans nécessairement réhabiliter ou confirmer toutes les thèses de Marx. Questionner dans l'esprit de Marx, ça ne veut pas dire réappliquer dogmatiquement la doctrine de Marx. Ça ne veut pas dire comment dire. Revenir à une orthodoxie marxiste, pas du tout. Moi, je n'ai jamais été marxiste en ce sens-là, et je ne suis pas devenu. Marx et la pensée marxiste ont été une des rares qui ait fait de l'ouverture, de la transformation et de l'ouverture critique un mot d'ordre. Hein. C'est-à-dire que la théorie devait être constamment adaptée, ajustée, compte tenu des transformations politiques, scientifiques, etc. Donc, travailler dans l'esprit de Marx, c'est aussi ne pas en rester à une dogmatique marxiste et essayer de penser l'inédit de notre temps avec un certain esprit, c'est même pas une méthodologie, une certaine inquiétude et un certain esprit, que j'appelle l'esprit de justice aussi, qui nous vient de Marx. Hein. Donc l'esprit, c'est à la fois la spectralité, mais c'est aussi une incitation qui ne nous paralyse pas dans une injonction qui ne nous paralyse pas dans une lettre dogmatique, dans un dogme littéral, dans une doctrine.
Ça aurait quelque chose à voir avec le style de Marx.
Le style, pas forcément
pas
le style d'écriture, mais
la
manière de poser les questions. Une certaine vigilance à l'égard de certaines questions, de certaines manières que les hommes ont dans la société d'oublier, d'ignorer, de dissimuler, de fétichiser, etc.
Diriez-vous qu'il y a un rapprochement à faire entre l'esprit de Marx et celui de Freud ?
Certainement. Je le dis, certainement.
Bon, alors, dans ce retour à...
C'est donc pas un retour. Ah, c'est un retour de Marx et de l'esprit.
De l'esprit, qu'est-ce que vous retenez ?
Alors, ce que, évidemment, à un certain moment, il apparaît dans le livre que, au nom de cet esprit de Marx, finalement, je propose de déconstruire pratiquement toutes les propositions de Marx. Et certains marxistes m'ont dit, alors il ne reste rien de Marx à partir du moment. C'est bien possible que les thèses que j'appelle l'ontologie de Marx, toutes ces thèses philosophiques, que le matérialisme dialectique, que la manière dont il lui-même essaie de conjurer les fantômes, soient des choses qui appellent des constructions, qui appellent la déconstruction. Donc je ne garde pas un contenu, si vous voulez, de thèses marxistes. De toute manière, je ne retiens rien de ce point de vue-là. et en tant que philosophie ou en tant qu'ontologie, la philosophie de Marx me paraît déconstructible. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien.
Qu'en est-il de la dialectique en particulier?
Oui, en particulier la dialectique. Maintenant, j'ai un rapport un peu compliqué à la dialectique. Mmh. C'est assez difficile, vous savez, c'est très difficile un entretien.
On m'a écrit ça par lettre.
Hmm?
On m'a posé cette question par une lettre.
Mais qui donc à lire? Moi, je ne peux pas. Non, j'arrive pas à l'entretien comme ça, à lire ces choses.
Alors, d'accord, mais je comprends tout.
Il faudrait du temps.
Mais justement, ce n'est pas une de mes questions. Hein,
Non, je ne peux pas.
Je ne peux rien du tout.
Je ne veux pas.
Non, mais là, par exemple, sur l'international communiste, vous en avez parlé. On peut peut-être.
Communiste, qui en fait partie, je ne sais pas. C'est pas un parti, c'est pas une organisation. Je ne peux pas vous dire qui en fait partie et comment elle s'organisera. Non, vous savez, je ne me sens pas capable. Je crois qu'il faut qu'on renonce.
On va quand même finir. C'est bien ce que vous avez dit. Une de vos interviews. Ça permet de situer votre pensée à l'égard du moment politique. C'est important, ça.
Non, je ne peux pas. C'est trop difficile. Excusez-moi, mais c'est pas seulement parce que je suis fatigué, mais c'est trop difficile.
Voilà. Par exemple, la question de la xénophobie, c'est fondamental d'en parler.
Non, oui, il faut en parler, mais j'ai rien à dire comme ça. Je suis contre. Bon, mais qu'est-ce que pas faire des phrases. Non, je devrais pas. J'aurais pas dû promettre de faire un entretien parce que je ne sens pas capable. Excusez-moi, mais. Non, ce que je peux dire au sujet de ça, c'est dans le livre. Faire des phrases comme ça, plates.
Alors, le mieux, c'est que, effectivement, je puisse moi vous poser des questions, je vais lire, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui a rédigé ces questions-là?
En partie, c'est moi. Celles qui sont en gras, ce n'est pas moi.
Ouais.
Et ça se voit.
Non, mais je.
Alors.
C'est trop difficile. C'est trop difficile.
Non, mais par exemple, vous pourriez me parler sur la question de la gauche et de la droite.
Non.
Comment
est-ce que dire. Non. Non.
Justement, la partie politique, vous m'en parlez pas. Justement, les questions politiques.
Non, parce que c'est politique, tout est trop difficile.
Vous en avez parlé dans vos entretiens sur la. Les positions de gauche et de droite, qu'on voit les positions de gauche s'allier à les positions d'extrême droite. Ça paraît ceci, finalement, de l'idée de gauche et de la droite, à partir de ce retour
mais
de Marx, de ce retour de l'esprit de
Marx. Mais je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de droite et de gauche, parce que je sais que c'est un piège dans lequel je n'ai pas tombé. Mais en même temps, je ne sais pas. Non, ce sont des choses qui ne supportent pas l'improvisation comme ça.
Vous en avez
je suis un peu désolé de vous leur faire revenir, je ne suis pas capable. Non, s'ils veulent écrire, qu'ils écrivent sur le livre, qu'ils prennent la responsabilité, moi je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. C'est trop difficile. Pardonnez-moi, mais je n'arrive pas.
Non, mais je comprends tout à fait.
Merci beaucoup. Il marche, ça. En ce qui concerne d'abord la lutte des classes, j'essaie de marquer que le schéma de la lutte des antagonismes et de l'hégémonie, de la domination d'une force sociale par une autre est irréductible. De ce point de vue-là, je souscris totalement à un motif marxiste, si vous voulez, ou marxien, d'une lutte sociale. Et du fait que, et je souscris à l'idée selon laquelle, dans un état donné, une situation sociale donnée, il y a des rapports de force, d'hégémonie, des dominants, des dominés, et que ces rapports de domination structurent la société. Dire cela, et donc ne renoncer ni à l'idée de conflit, ni à l'idée d'hégémonie, ça ne veut pas dire nécessairement définir les termes de cette lutte en se réglant sur le concept de classe. Il est possible qu'aujourd'hui, le concept de classe sociale doit être pour le moins compliqué. Je crois qu'il y a encore des classes sociales, mais l'usage que le discours marxiste traditionnel a fait du concept de classe sociale est peut-être à réviser aujourd'hui, à transformer. Donc, je crois qu'il n'est pas nécessaire de se servir du concept de lutte des classes sociales dans sa tradition marxiste pour analyser aujourd'hui les luttes, les hégémonies, les contradictions, les rapports de force et des formations sociales qui, pour n'être pas nécessairement celles des classes, ne sont pas moins celles de structures, de groupes que on peut analyser dans un esprit marxiste. Donc, on n'a ni à conserver ni à abandonner le concept de lutte des classes, il faut seulement le transformer et l'ajuster à une nouvelle situation politico-économique. Quant à la dialectique matérialiste, je dirais que le matérialisme dialectique est une expression qui n'est pas chez Marx, littéralement. Et d'autre part, comme beaucoup d'autres, comme pas mal d'autres penseurs français, j'ai beaucoup questionné le motif dialectique. Donc, ce qu'il y a de strictement dialectique chez Marx n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Cela dit, je crois que même si à un moment donné il y a des différences qui ne sont pas, des conflits qui ne sont pas dialectisables, la pensée dialectique peut encore être très féconde jusqu'à un certain point. Mon travail, aussi bien dans ce livre que dans d'autres livres, c'est d'interroger à la fois la nécessité et les limites de la logique dialectique. Sixième question, la nouvelle internationale. Ce que j'appelle la nouvelle internationale, évidemment, en jouant sur la tradition de cette expression, concerne, au-delà des organisations qui ont porté le nom de internationale, de sentir aujourd'hui, à travers le monde, hors des partis, hors des syndicats, quelquefois à l'intérieur, mais pas nécessairement organisés par des partis et des syndicats, une aspiration à une solidarité internationale qui rassemble des hommes et des femmes qui ne sont pas nécessairement des citoyens d'un État-nation, ni des sujets politiques au sens traditionnel du mot politique, et qui appellent une transformation du droit international, une transformation de la démocratie telle que aujourd'hui, visiblement, elle ne peut plus s'accorder ni avec les concepts traditionnels d'État-nation, les concepts de frontières tels qu'ils existent aujourd'hui, ni même avec un droit international ou des sociétés, des institutions internationales qui sont encore, d'une part, régies par, dans leur concept, par des catégories européennes qu'on peut critiquer, qu'on peut suspecter, qu'on peut déconstruire, et qui, d'autre part, dans la mise en œuvre effective de leurs décisions, restent encore dépendantes de certains États particuliers, comme les États-Unis, par exemple. Mm-hmm. Donc il s'agit d'une aspiration qui ne se rassemble pas dans les organisations, mais dont on peut sentir qu'elle est présente, on peut sentir à beaucoup de signes qu'elle est présente ici ou là, et qu'elle forme une sorte d'affinité qui n'a pas...
D'affinité,
Une sorte d'affinité, de complicité, de solidarité, qui n'a pas de forme organisationnelle, qui n'a pas de forme institutionnelle, mais qui fait craquer toutes les institutions, hein, qui dérange, déborde toutes les institutions étatiques ou transétatiques. Donc il y a, à mon avis, une force internationale qui, actuellement, de façon obscure, et sans avoir trouvé son langage, fait trembler en quelque sorte.
Qu'a-t-il le Parlement des écrivains à voir avec ça?
Je pense que c'est un Parlement international et qui lui aussi essaie, par-delà les États, les pouvoirs économiques, les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs idéologiques ou religieux, de rassembler, de protéger tous ceux qui, aujourd'hui, cherchent à penser librement, à inventer de nouvelles formes, à s'engager dans des voies qui ne sont pas contrôlées par des dogmes, par des constitutions, par des orthodoxies nationales, linguistiques, religieuses.
C'est dans quel but précis qui va se réunir cette année à Lisbonne?
Alors, il va s'agir d'une part de travailler, et le thème qui dominera ces rencontres va être la littérature déplacée.
Il s'agira de se demander
pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, et sous des formes nouvelles, tant d'écrivains, mais aussi de penseurs, d'artistes, de savants, de journalistes, de gens qui représentent la parole libre, hein, tant d'écrivains notamment sont chassés, menacés de mort, quelquefois assassinés, ostracisés, chassés hors de leurs frontières ou quelquefois obligés à l'intérieur de leur pays à se cacher ou à s'auto-censurer ou à crypter leur travail, sont confinés en quelque sorte, exilés à l'intérieur. Pourquoi tant d'exils de l'intérieur ou de l'extérieur? Et pourquoi cela aujourd'hui vise particulièrement les écrivains, ceux qui inventent des formes, travaillent avec le langage et représentent une parole affranchie.
Qu'est-ce que ça a à voir l'autocensure avec la média, avec les médias?
Mais les médias, comme vous le savez, qu'elles soient étatiques ou libres, sont contrôlés par des monopoles d'appropriation, souvent commerciales. Hein. C'est-à-dire que la recherche de l'audimat, de la vente, du marché, commande trop souvent le travail des médias, quelle que soit
la vigilance sur le travail de l'écrivain.
Mais l'écrivain est naturellement la médiation entre l'écrivain et le lecteur. C'est souvent la presse, la télévision, etc. Or, la situation est différente dans chaque pays et dans chaque cas, hein, mais enfin, trop souvent, c'est ce pouvoir médiatique qui évalue, décide, classe, fait vendre, soutient ou marginalise, et par conséquent limite l'autonomie de la création.
Donc il peut être un critère d'autocensure.
Souvent, on peut imaginer que des écrivains, on en a quelques exemples, hein, écrivains qui se mettent à écrire ce dont ils pensent que ça passera plus facilement, qu'on en parlera plus facilement sur les antennes de télévision, hein, que le marché l'absorbera plus facilement. Donc la toute-puissance du marché elle-même exerce un effet de censure, sans parler de censure beaucoup plus grave, hein, qu'on pense à Rushdie, qu'on pense à tant d'écrivains qui en Inde ou ailleurs sont menacés de mort ou emprisonnés. Donc il s'agit de réfléchir sur les conditions nouvelles de ces persécutions, sur leur aggravation actuelle, compte tenu naturellement de ce qu'il y a de nouveau. Il y a de tout temps le poète ou l'écrivain a eu des problèmes avec le pouvoir étatique, religieux. Mais aujourd'hui, ça se passe dans des conditions relativement inédites, et le Parlement international des écrivains s'est donné pour tâche à la fois d'analyser ces nouveautés et de lutter internationalement, donc en associant toutes les forces, toutes les compétences des écrivains pour justement...
Est-ce une forme d'être un intellectuel engagé?
Oui, le mot d'engagement a une histoire. Alors évidemment, dès qu'on se dit engagé, on risque de rappeler les modèles de l'engagement juste après la guerre, au moment où le mot de l'intellectuel engagé s'est installé en quelque sorte. Alors moi, j'ai rien contre ça, mais aujourd'hui, ça doit prendre de formes nouvelles. Par contre, moi, j'ai rien contre le mot engagement, sauf s'il rappelle des modèles de politisation, en quelque sorte, qui peut-être ne sont plus adéquats aujourd'hui. Mais c'est une forme d'engagement, bien entendu.
Voilà.
Ça suffit. On a...